Et ensuite, une fois que je suis dans la course, alors j'arrive de mieux en mieux, mais ça a été un gros travail à faire. C'est vraiment à penser à moi et à ma navigation et pas être focus sur les autres et du coup plus penser à mes sensations. C'est vraiment moi, mes sensations, ma vitesse pour être la plus efficace.
Salut Alexa.
Salut.
Bienvenue sur le podcast des Frappés. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui et je voulais déjà te remercier d'avoir pris le temps pour qu'on puisse échanger puisque t'as une fin de saison, tu vas nous en dire plus, mais une fin de saison qui s'enchaîne, hein, c'est sur les chapeaux de roue. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour cette conversation.
Bah merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Bah écoute, je te laisse peut-être commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et ton palmarès.
Oui. Donc, je m'appelle Alexa Fancelli. Donc moi, je fais du kitesurf à haut niveau et plus précisément du kite foil. C'est du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport nautique avec le cerf-volant et une planche qu'on utilise sur l'eau. Et donc plus particulièrement, moi, c'est une planche avec un mât dessous qui va nous permettre de décoller et de voler à peu près à 1 mètre au-dessus de l'eau. Donc voilà, ça fait depuis 2014, je fais de la compétition et depuis 2015, je suis sportive de haut niveau et je suis dans l'équipe de France de kite foil. J'ai fait pas mal, plusieurs résultats en France. Ça fait 4 ans que je suis championne de France et à l'international, mes meilleurs résultats ont été une 3e place au championnat du monde en 2018 et une 2e place au championnat d'Europe également en 2018. Voilà.
Waouh, gros palmarès du coup. Sachant qu'en plus de ça, tu es aussi encore étudiante, hein, si je ne me trompe pas, tu suis une formation à Marseille ?
Alors non, je suis plus étudiante depuis quelques temps. Ouais. Je travaille depuis 4 ans en tant que monitrice et entraîneur de kitesurf.
Okay.
Donc je suis basée à Hyères, à l'école s'appelle le Spot Kite Center. Donc voilà, j'ai un travail à côté et de l'autre côté, je mène ma vie de sportive de haut niveau.
Hyères, l'Almanach. On en parlait avec Alex Kayser qui a été un des invités aussi sur le podcast. Et d'ailleurs, peut-être tu pourras nous confirmer ça parce que je viens de pas très très loin de Hyères, donc il y a un peu de chauvinisme. Mais il me disait que ça souffle beaucoup plus fort à Port-Camargue qu'à Hyères. C'est vrai ça?
Alors, ça souffle plus fort, mais je pense qu'au niveau des jours de vent, on a beaucoup plus de jours de vent qu'eux.
Bon, tant mieux, on a ça, on a quelque chose. Top. Alors, peut-être qu'on peut commencer par les débuts. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le kite et peut-être plus précisément dans le kite foil? Et voilà, quelles émotions est-ce que tu es allé chercher et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée assez jeune au final en haut niveau.
Moi j'ai débuté le kite en 2008, c'est mon père qui en faisait déjà qui m'a initiée et donc c'était super de pratiquer cette activité de plein air avec lui. Donc au début j'étais sur une planche normale, un 20, puis un surf. Et en 2012, j'ai découvert le foil avec une nouvelle sensation, une sensation de voler un peu au-dessus de l'eau. Et en fait, il n'y a plus aucune adhérence de la planche et on peut faire des distances assez longues en peu de temps. Et du coup, on peut se balader pendant des heures, on va dire, peut-être pas des heures, mais pendant 1 heure, 2 heures facilement à faire plusieurs kilomètres. Et donc, c'est ça qui m'a plu, un sentiment de liberté. Voilà.
Ok. Et en termes de vitesse, tu vas beaucoup plus vite avec le foil?
Alors, ça dépend des conditions de vent, mais on va dire que dans du vent léger, on peut atteindre vraiment des grosses vitesses en foil. Par exemple, pour une dizaine de nœuds de vent, donc environ 20-25 km/h de vent, on peut atteindre du 25-28 nœuds. Donc,
oui.
On est sur du 50 km/h, quoi.
Ouais, quand même. Ok.
Ouais.
Ok, donc c'est plutôt c'est l'aspect vitesse et liberté qui fait que t'as accroché assez rapidement, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et le haut niveau, du coup, comment c'est naturellement du coup que ça a évolué sur de très bons résultats pour toi et puis l'équipe de France?
Bah écoute, en 2013, j'ai pris une année, on va dire, off. J'ai eu mon diplôme en poche et je savais pas trop quoi faire. Du coup, voilà, j'avais un peu de temps libre et c'est un pote à moi qui m'a amené sur ma première compète et j'ai accroché. Et de là, j'ai commencé à faire un petit résultat, puis un autre et j'étais de suite bien classée pour mon niveau. Et au fur et à mesure, ça s'est enchaîné. Puis compétition à l'international, j'ai été repérée par Ariane Imbert, qui est l'entraîneur actuel de l'équipe de France de foil. Ouais. Et ça s'est assez vite enchaîné avec des résultats à l'international.
Et tu penses que c'est quoi qui a fait la différence pour toi dès le début comme ça?
Bonne question. Bonne question. Je pense que c'était un sport nouveau. Au début, il y avait quelques filles et du coup, l'engouement était là et ça a été aussi l'envie de participer au développement d'un nouveau sport qui a fait que ça m'a lancée et j'étais assez sportive dès le départ. Donc, j'ai fait des résultats assez tôt.
Cool. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le format des compétitions? Comment ça se présente? Vous êtes combien? On parle de quelle durée? C'est quoi les grosses difficultés sur des compètes que vous avez à gérer?
Alors, depuis quelques années, on avait un format qui là va évoluer avec le kite qui rentre aux Jeux Olympiques en 2024, parce que l'entrée aux Jeux Olympiques fait qu'il y aura une médaille, donc on va passer sur un sport qui est assez individuel, qu'on va pratiquer à deux, parce que aux Jeux Olympiques, on aura un parcours en relais mixte. C'est-à-dire que un homme et une femme vont faire un couple et donc c'est ce couple qui va représenter la France ou un autre pays en 2024. Alors que avant on était en individuel. Donc moi je courais D'accord. toute seule et en 2024 on va courir à deux. Donc le parcours c'est donc une ligne de départ comme une régate de bateau en fait. Ligne de départ avec un parcours avec une bouée qui est mouillée au vent et donc ça ressemble à un triangle. On prend le départ, on va virer la bouée qui est au vent, on redescend. En général, c'est deux tours. Et donc là, avec cette histoire de format mixte, donc t'as toujours le départ, sauf que là, c'est soit le garçon, soit la fille qui prend le départ.
Peu importe, c'est chaque équipe qui choisit.
Alors, ça dépend. Là, sur les dernières compétitions qu'on a eues, pendant les journées de qualification... ensuite on a deux jours de, ils appellent ça Gold Series, donc c'est, t'as des poules en fait qui sont faits par rapport à ton classement sur les deux premiers jours. Okay. Donc là c'est le directeur de course qui choisit en affichant le drapeau qui représente les garçons ou les filles. Et ensuite sur vraiment le dernier départ où c'est les quatre meilleurs couples qui jouent pour le podium, là c'est au choix.
D'accord.
Donc,
c'est intéressant ça. Donc, c'est stratégique quand même.
Ouais, il y a un peu de stratégie.
Ouais. Ok. Et une épreuve, on va dire un run, ça dure combien de temps? Entre le moment où tu montes sur ton kite et où tu descends et tu passes le relais?
Ben là, au niveau des relais sur le championnat d'Europe, donc le dernier essai qu'on a eu il y a même pas un mois, on était sur environ 3 minutes de rail de chacun, quoi. Donc
super
court.
C'est hyper rapide.
Ouais. Wow, c'est super court, ça laisse pas le droit à l'erreur. Donc voilà, on espère que pour les prochains événements, ce sera un peu plus grand, parce que on reste un peu sur notre faim au final.
Eh bien, il y a une distance déjà, comme ça devient un sport olympique, j'imagine que c'est hyper structuré.
Exactement. Là, la bouée au vent, elle était à un peu moins d'un mille. Ensuite, on était sur un lac et du coup, avec beaucoup de profondeur, ils ne pouvaient pas mouiller les bouées où ils voulaient. Donc, peut-être que cette difficulté a fait qu'on a eu un parcours réduit. Donc, on verra sur les autres lieux de compétition. Okay. Normalement, c'est un peu plus long quand même.
Ouais. J'imagine que c'est quand même pas 10 minutes. Quoi. Quand tu dis c'est un peu plus long, c'est dans quelle proportion?
Ben, on est au moins à 6 minutes. Alors là, du coup, ce qui était très court, c'est que on fait seulement un tour chacun et on passe le relais. Donc, le cumulé fait qu'on tourne à 5-6 minutes environ. Et normalement, sur un parcours type normal où on est individuel, on court, alors ça dépend des niveaux, mais entre 10 et 18 minutes. Donc,
D'accord, ah oui, c'est quand même.
c'est quasiment le double.
Ouais.
Voilà.
Waouh, ok. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, du coup, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui touche à la préparation mentale et la préparation en général, comment tu fais pour. Par quelles étapes est-ce que tu passes, toi, Alexia, pour te préparer mentalement quand tu sais que tu n'as que 3 minutes pour faire la différence?
Bah, du coup, je suis suivie depuis quelques années par un préparateur mental.
Ah.
Ouais, donc ça, c'est un avantage, ça permet de se préparer. Ensuite, je dois t'avouer que les championnats d'Europe, c'était une première et que du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit si court. Donc, ensuite, une fois qu'on est sur l'eau, enfin, moi personnellement, une fois que j'arrive sur l'eau, je teste le parcours, j'essaie de voir s'il y a des avantages à partir sur un plan d'eau à droite ou à gauche ou à rester plutôt centré. On essaie de voir par rapport à la météo aussi. Et puis, quand le départ se lance, ben, j'arrive à mettre dedans dès le départ et ça joue, quoi.
Et quand tu dis te mettre dedans, il se passe quoi exactement? T'es concentré sur des éléments techniques, comment tu manipules ta voile, ou est-ce que tu penses, tu laisses place complètement au réflexe, au naturel, ou ça se présente comment pour toi?
Donc, bah, dès le départ, il va y avoir le positionnement qui va être important par rapport aux autres filles.
Ouais.
Donc, par rapport à ça, ben, on essaie de s'imposer. Donc, chaque fille essaie de s'imposer, donc de faire sa place. Et ensuite, une fois que je suis dans la course, alors j'arrive de mieux en mieux, mais ça a été un gros travail à faire. C'est vraiment à penser à moi et à ma navigation et pas être focus sur les autres et du coup, ne plus penser à mes sensations. C'est vraiment moi, mes sensations, ma vitesse. Pour être la plus efficace possible, parce que je me suis rendu compte que quand je regardais un peu trop ce qui se passait autour de moi, j'allais un peu moins bien, quoi.
Ah, c'est intéressant ça. Et tu l'as fait comment? Comment tu l'as eu ce déclic, ce changement d'état d'esprit? C'est grâce à ton coach ou l'expérience ou un mix des deux?
Un peu des deux, un peu des deux, ouais.
Et avec le travail avec le coach, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour t'aider du coup à opérer entre autres hein, ce changement?
Bon, on essaie de faire pas mal de visualisation, d'enlever les aspects négatifs en navigation, de penser que du positif à ce qu'on a envie de
Ouais.
faire, enfin à ce que j'ai envie de faire du coup. Et puis, ouais, c'est un travail sur le long terme qui a apporté ses fruits. Pas mal de visualisation et de penser à ce que je veux.
Et ça, c'est un exercice que tu fais pour des échéances à plus long terme, comme les jeux notamment?
Alors, je dois t'avouer que je pense, enfin, c'est pas si loin que ça, mais c'est encore assez éloigné. Et donc là, avec toutes les échéances qu'on a eues en peu de temps, non, je pensais pas aux Jeux Olympiques pour
Ok,
l'instant.
ouais.
Ouais.
T'as déjà une idée de comment tu vas commencer à préparer tout ça, enfin à organiser toute cette phase de préparation pour les jeux justement?
Bah c'est difficile à mettre en place vu que je travaille à côté.
Ouais.
Là, j'ai déjà prévu un gros entraînement physique hivernal, donc
Ok.
pour commencer à être en forme. Et ensuite, bah, ça va se construire au fur et à mesure avec les prochains événements qui auront lieu l'année prochaine. Enfin, le but, ça va être d'être au maximum de ma forme, au meilleur de ma forme en 2023.
Et ça, vous avez une sorte de feuille de route avec la Fédé qui vous aide pour tout préparer, ou vous êtes relativement autonome?
Non, on est assez autonome. Là, il n'y a rien qui est... Enfin, on n'a pas de feuille de route.
Ok. Cool, c'est intéressant de voir l'impact du coup de toute la partie préparation mentale et comment t'en as tiré des enseignements pour modifier la façon dont tu gères tes cours, c'est intéressant.
Oui.
Si on reste sur la partie gestion mentale et préparation, est-ce que tu as déjà eu à faire face à une situation, alors soit de blessure, soit de vraiment de grosses galères imprévues, du genre, je ne sais pas si ça peut arriver, mais ton foil se casse, ce genre de choses?
Bonne question.
Je les enchaîne, hein.
Alors, au niveau de la casse, ça m'est arrivé de casser des bridages dans un emmêlage. Mais du coup, ben, tu rentres au bord assez rapidement et tu changes d'aile. Mais je touche du bois parce que j'ai encore jamais cassé mon foil. Donc ça, c'est déjà pas mal. Sinon, grosse galère.
Sachant, pardon, hein, Alexia, mais sur les pépins techniques que tu évoquais, ta course, elle est finie si tu arrives un truc comme ça, j'imagine.
Bah alors, il va y avoir plusieurs cas. Il va y avoir le cas où c'est à cause de quelqu'un que tu as de la casse matérielle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a coupé une priorité, parce que du coup, c'est comme, pour que ça se passe bien en régate, il y a des règles, hein, c'est comme les règles de la route, hein, le code, ouais. C'est-à-dire que tu as des priorités, des trucs comme ça. Donc, si quelqu'un t'a grillé une priorité et donc que c'est de sa faute, bah t'as beau avoir loupé ta course ou peut-être une course après, tu vas pouvoir, si tu arrives à bien te défendre, récupérer ses courses, donc être classé. Donc dans ce cas-là, bon bah tu perds, mais tu peux avoir le temps de changer de matériel parce que tu as du matériel en double, ou bien prendre une voile plus petite ou plus grande que t'as déjà enregistrée.
Ce qui est ensuite, pas super optimal, si je me trompe pas.
Bah, parce que... Non, c'est pas optimal du tout. Ça dépend des conditions, mais disons que s'il y a 8 nœuds de vent et que ta plus grosse voile est morte et que tu dois prendre une plus petite, bah là, là c'est la galère.
Ouais.
Mais ensuite, si t'es sûr d'avoir eu la priorité, tu peux te faire reclasser sur toutes les manches du jour. Donc ça, c'est cool.
Ah oui.
Ça permet, qu'il y ait des imprévus comme ça ou de la casse, ça permet de toujours rester dans la course. Donc ça, c'est top. Ensuite, bah, si c'est toi qui es fautif et que tu as cassé ton matériel, là, c'est tout pour toi.
Ouais, donc, là, c'est pour ta pomme.
Exactement. Donc, tu as le matos qui est cassé et puis en plus, bah, tu as toutes tes manches qui sautent. Donc, vaut mieux essayer d'éviter...
Ouais.
les problèmes, les emmêlages.
Ouais, clairement. Et du côté des blessures, c'est alors j'espère pas, hein, je te le souhaite pas du tout, mais c'est toujours intéressant de voir comment les sportifs, surtout de haut niveau, gèrent ce genre de, j'allais dire d'imprévu, mais ça arrive quand même. C'est quand même commun dans le sport de haut niveau, donc je me demande si tu as déjà eu à affronter ce genre de situation.
Ouais, j'ai déjà eu entorse à la cheville. Entorse à la cheville, c'était il y a 3 ans, c'était entre deux compètes, mais bon, j'ai eu de la chance, c'était assez éloigné au niveau des événements, donc j'ai eu le temps de m'en remettre, mais psychologiquement, ça a été assez dur. J'ai chuté en fait sur un jibe, donc sur un changement de bord, où le pied il est resté dans la planche. Aïe. Et psychologiquement, j'ai eu un petit peu du mal à réengager ce changement de bord de ce côté-là pendant un petit moment. Enfin, donc j'y allais, mais doucement. Donc ça s'est joué pas mal sur de la visualisation pour arriver à passer ça. Mais ça va, c'était une petite blessure. Et puis l'hiver dernier, en fin de saison, il n'y avait plus aucun événement et tout. Sur une session où je me suis amusée, je suis venue impacter ma jambe gauche sur le sable, et en fait donc il y avait un peu d'eau, donc ça a retenu la chute, et en fait j'ai eu un œdème dans le plateau tibial externe de donc c'était à l'intérieur de l'os, j'avais un œdème dans l'os, et du coup ça a mis 3 mois et demi avant de se soigner, donc la préparation hivernale a été arrêtée, donc ça a été assez long, ça a été un gros break, quoi, disons. Mais ça va, là, je suis remise depuis le début de la saison, je suis remise et j'ai plus eu aucune douleur dans ce genou. Mais ça a été assez long.
Et ça, comment tu l'as géré? Parce que voir 3 mois de préparation partir en fumée sur une blessure, j'imagine que c'est un coup dur quand même.
Ça a été assez dur. Je partais juste en vacances à ce moment-là, donc bon, j'ai
Ah
fait
ouais.
les vacances au soleil en béquille et j'ai pas pu m'entraîner. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de kiné. J'ai eu 1 mois de béquille et en fait, direct après l'accident, une semaine après, j'étais en kiné. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai pas perdu beaucoup au niveau de la musculature. Donc
Oui.
une fois que j'ai fait 3 mois et demi de kiné et donc c'est le kiné et le médecin qui m'ont autorisé à reprendre le kite. Mais donc l'avantage c'est que j'ai pas perdu en musculature et j'ai été de suite prise en charge. Donc ça c'est bien passé quoi. Et
T'as pas
après
perdu de
ben
temps.
à côté ça a été de la visualisation pour la partie sur l'eau. Mais bon ça va c'est passé ça Pardon, j'ai eu l'accident durant la période hivernale, donc c'est le moment où on passe un peu plus de temps en salle, un petit peu moins sur l'eau parce que il fait froid, les sessions sont un peu plus courtes. Donc j'ai perdu du temps, il y a eu un moment sans naviguer, mais ça n'a pas été non plus dramatique pour mon sport.
Et par curiosité, c'est moins traumatisant le kite foil que le kite classique?
Oui,
Pour
complètement.
les musculairement, je veux dire, hein, ouais.
En fait, tu vas avoir beaucoup moins d'impact.
Ouais.
Ensuite, tu risques de te faire mal sur une chute. Les chutes, quand tu vas perdre l'équilibre, risquent de faire plus mal parce que en soi, on atteint des vitesses assez élevées
Ouais.
et on peut avoir comme je disais, un pied qui reste coincé dans le strap ou quoi. Mais maintenant, on arrive quand même à s'éjecter assez rapidement, à savoir. Enfin, moi personnellement, j'arrive à tomber d'une certaine façon où je me fais un peu moins mal. Ensuite, bon, mon ostéopathe, il me voit quelques fois dans l'année, quoi. Mais sinon, ça va.
Ouais, t'as la carte VIP chez le kiné ou l'ostéo.
C'est ça. Mais bon, en
Ok.
ça va, c'est beaucoup moins traumatisant. En discipline freestyle, ils vont venir à chaque réception de saut, ils vont venir impacter au niveau des genoux. Il va y avoir des blessures au niveau des épaules, donc genoux, un peu moins les chevilles parce que maintenant ils ont les pieds accrochés à leur board avec des boots. Mais par contre, au niveau du traumatisme, il n'y a rien à voir entre un freestyler et nous les foilers.
Ouais. Bon, quelque part, c'est une bonne nouvelle. En termes de longévité,
C'est ça.
tu fais pas plus mal.
C'est ça.
Alors, la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à la. Tu disais tout à l'heure que c'était un sport, le kite foil, c'est un. Enfin, le kite d'ailleurs en général, mais peut-être de ce que j'ai compris encore plus, le kite foil, hein, une discipline assez neuve, assez nouvelle. À quoi ça ressemble du coup du côté de l'équipe de France? Vous avez déjà une organisation bien en place, vous. Parce que je crois que vous dépendez, si je ne me trompe pas, de la Fédération française de voile. Mais
Oui, c'est
ça
ça.
ressemble à quoi du coup en termes de dynamique? Vous avez quand même des stages, vous êtes relativement nombreuses.
Alors, donc, il y a eu une évolution cette année parce que donc on avait déjà l'équipe de France l'année dernière et les années précédentes, équipe de France. Il y avait l'équipe relève et ensuite les personnes qui étaient en pôle espoir. Donc ça,
OK.
c'était les années précédentes. Cette année, il y a eu l'annonce des Jeux Olympiques en 2024. Pardon, il y a eu l'annonce cette année en 2020 ou fin 2019 que le kite foil ferait son entrée aux Jeux Olympiques en 2024. Donc il y a eu une accélération du système du coup pour le kite foil. Ce qui s'est passé cette année, donc au niveau international, les garçons, on a un très très gros niveau chez les garçons. On a les 4 membres de l'équipe de France qui font partie du top 8 mondial.
Ah ouais,
Donc
d'accord,
ça
50%.
c'est ouais, ça c'est énorme. Et encore cette année au championnat d'Europe individuel, on a les Français qui se classent premier, deuxième, quatrième et un dernier français qui a dominé tout l'événement mais qui s'est planté sur le dernier jour, qui finit dixième, mais sinon ils auraient pu faire les quatre places, quatre Français.
Wow.
Donc ouais, non, c'est assez bien à ce niveau-là. Et par contre, au niveau des filles, donc moi j'ai fait sixième cette année au championnat d'Europe. Le niveau à l'étranger a énormément augmenté. Et ensuite, les autres filles, elles se classent 8e, 12e et ensuite un peu plus loin. Donc, il y a quand même une forte progression chez les filles possible. Du coup, depuis cette année, il y a un programme qui s'est monté. C'est le programme L de Kite. Ça a commencé l'année dernière avec de la détection. Et depuis cette année, ça regroupe les filles en équipe de France, relève, pôle espoir et à fort potentiel pour les Jeux Olympiques. Et du coup, on a 1 à 2 semaines de stage d'entraînement par mois. Alors, quand je dis 2 semaines,
oui,
c'est 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, 2 fois par mois d'entraînement.
C'est énorme.
Voilà. Ouais, c'est énorme. Ça a été un accélérateur après le confinement. Après le confinement, on a eu 4-5 stages d'affilée. Donc, à chaque fois, entre 3 et 5 jours. 5 jours, on n'a pas eu souvent. C'était plutôt entre 3 et 4 jours, en fonction des conditions de vent et puis de la possibilité aussi d'y aller au stage. Parce que, bon, à côté, moi, je travaille, donc faut se rendre disponible aussi.
Bah ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, ça a été un gros accélérateur après le confinement et du coup, moi, après ma blessure, parce que du coup, j'ai pas beaucoup navigué entre ma blessure et le confinement cet hiver. Mais donc ça, c'était top. Ça a été un gros accélérateur. Et en plus, des stages équipe de France et relève. Parce que moi, du coup, je suis en équipe de France.
Ouais.
Voilà.
Et vous travaillez quoi sur ces stages, du coup? C'est vraiment de la technique? C'est de la préparation physique? C'est un peu de tout?
Alors, ça va être plus sur l'eau que préparation physique. En soi,
okay.
La préparation physique, on l'a fait à côté. Ça va être plutôt des stages sur l'eau où bah là, ça va être des points techniques, de la tactique, de la stratégie. Avec briefing, débriefing, partie en salle des fois pour parler un peu plus de météo. C'est assez large.
D'accord,
c'est vraiment
intéressant.
Ouais. Météo,
okay.
Stratégie, règles de course. C'est vraiment assez varié. Ensuite, sur l'eau, ben, ça va être des courses avec différents parcours,
ouais.
Des départs, des points techniques comme les virements, les jibes, enfin, un peu tout, quoi. C'est assez varié. Ça dépend des stages. Il y a des thèmes, des fois, il n'y a pas de thème. Ça dépend.
Okay.
Enfin, de plus en plus, c'est de faire des stages à thème.
Ok. Et toi, si tu regardes cette équipe de France, tu dirais que c'est quoi que tu apportes de différent? T'as la patte Fancelli, ce serait quoi?
Que j'apporte à l'équipe de France?
Ouais, ou tu vois, tu vois que tu apportes toi, ou en tout cas que tu vois chez toi de particulièrement fort, peut-être par rapport aux autres membres de l'équipe de France, parce que j'imagine que vous avez chacune peut-être un peu vos spécialités quelque part.
Bah, du coup, en équipe de France, j'ai été ces dernières années la seule fille sélectionnée. Donc, on va dire que pour l'équipe de France, j'apporte ma touche féminine. Parce que là, du coup, je suis qu'avec les garçons. Et par contre, au niveau du stage L de Kite, où là, du coup, on est que les féminines et de temps en temps, les garçons se rajoutent à nous. Donc là, ouais, je vais plutôt apporter mon expérience. Parce que, alors, il y a des filles qui courent depuis un moment, mais il y en a qui sont un peu plus jeunes aussi.
C'est intéressant que tu sois la seule sélectionnée depuis quelques années, tu dis, hein.
Du coup, alors, au niveau de la FF Voile, ça fait 2 ans, c'est la 3e année qu'on est que c'est la Fédération Française de Voile qui nous fédère, parce qu'avant, on était sur la Fédération Française de Vol Libre. Et donc,
okay.
En tout cas, ces 2 dernières années, j'ai été la seule Française sélectionnée en équipe de France par rapport aux résultats internationaux.
Excellent. Et comment tu gères ça, par curiosité, dans ta vie de tous les jours? Parce que tu disais, voilà, tu as un job à côté. C'est justement un sport qui est relativement neuf. Donc, bon, après, tu vis ailleurs. Donc, j'imagine qu'ailleurs, c'est quand même relativement connu comme sport. Mais Tu as vu une évolution du coup dans, je sais pas, les gens que tu fréquentes, le regard du public sur ton sport au fur et à mesure qu'il prend de l'ampleur et maintenant qu'il est officiellement un sport olympique?
Non, je dois t'avouer que j'ai pas trop vu d'évolution par rapport aux gens en soi. Enfin, en tout cas, moi, quand je vais naviguer sur la plage, il y a mes bandes de copains, on va dire, parce que j'ai ma bande de folle. Enfin, j'ai mes amis ensuite qui font du strapless ou du swim tip à côté. Donc, je connais pas mal de monde et pour ça. Il n'y a jamais eu de tabou ou quoi par rapport au fait que je fais des résultats. Mais c'est un peu pareil pour les garçons qui sont à haut niveau.
Okay.
Je pense qu'on est assez facile d'accès et enfin il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Ouais.
Enfin, c'est une grande famille, quoi, le kite.
C'est un peu. Bon, j'ai pas du tout connu cette époque, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même état d'esprit que peut-être la planche au tout début, cool, accessible, population relativement jeune, j'ai l'impression. Parce que toi, t'es jeune, mais je crois que les garçons, c'est un peu pareil dans l'équipe.
Alors, dans l'équipe, ouais, je suis la plus vieille.
Ah ouais,
mais, ouais. Ben. J'ai 27 ans, plus pour longtemps, parce que dans un mois, c'est mon anniversaire, mais ouais, non, je suis la plus vieille. Ensuite, les gars, ils ont entre 22 et 25, je crois. 26,
ah ouais, d'accord.
Maxime. Ouais, Maxime, il a 26, je crois.
Ok. C'est intéressant. Et c'est quoi la durée de vie, on va dire, au niveau sur le cadre? Bon, après, la discipline est toute neuve, mais ou plutôt, toi, comment tu te projettes? C'est quelque chose que tu envisages Bah, j'imagine qu'à moyen terme, oui, puisqu'il y a les jeux, mais tu commences déjà à réfléchir à en quoi pourrait se transformer ta carrière actuelle de sportif de haut niveau.
Écoute, je sais pas trop. Là, c'est vrai que l'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques en 2024. Ouais. Vraiment, c'est ça. Mon but, c'est d'être sélectionné. Donc là, pour l'instant, c'est mon objectif et puis on verra après.
Sachant que les Jeux, ils vont...
Alors la sélection se fera en 2023, donc si jamais en 2023 je suis pas sélectionnée, ben écoute, je vais te dire que je verrai à ce moment-là. Pour l'instant,
ouais. Non, mais il y a pas de raison. Avec la bonne préparation mentale que tu fais, ça va passer.
J'espère, on verra. En tout cas, là, les filles, elles poussent de plus en plus et ouais, c'est pas facile, mais bon, il y a encore 2 ans, 3 ans pour être au top là,
ouais.
Donc bon.
C'est voilà. Ça que je trouve fou, parce que t'es pas la première avec qui j'échange sur la préparation pour les Jeux. Et ce que je trouve fou, c'est, enfin ma grosse question, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Comment toi t'arrives à garder cette détermination pour un objectif qui est dans 4 ans? Tu y penses sur chaque run à l'entraînement, sur chaque régate, ou comment tu gères la motivation pour que ça dure autant à long terme?
Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, j'y pense pas trop, enfin pas tant que ça. C'est plutôt, je pense à la compète là qui va avoir lieu demain, et puis ensuite la semaine prochaine, ça va être le championnat de France, et puis au fur et à mesure, et voilà. Enfin, ça me plaît, je suis passionnée par ma discipline, et les compétitions, ça me plaît, concourir, ça me plaît, donc voilà, ça se fait un peu naturellement, on va dire.
Comme ça vient en feeling, ouais.
Ensuite, c'est vrai que on est un sport jeune, assez fun. Donc, je sais pas vraiment comment ça se passe dans d'autres disciplines où là, tout est pesé au niveau de l'alimentation, du nombre d'heures de préparation physique par semaine, du nombre d'heures d'entraînement sur l'eau. Enfin, là, pour l'instant, j'ai ma vie professionnelle et ma vie sportive à côté, donc je fais au mieux que, enfin, je donne mon maximum sur les deux domaines, et puis pour l'instant ça passe, donc j'espère avoir des facilités dans les années à venir avec ma fédération ou d'autres sponsors pour pouvoir me consacrer encore plus à ma vie sportive et pour que ça devienne vraiment on va dire, ma profession comme comme d'autres sportifs de haut niveau actuels, pour vraiment me consacrer qu'à ça et du coup à cette préparation olympique.
Et ça donne quoi du coup actuellement en termes de sponsoring? Les JO, ça représente quel investissement? Et la réalité dans ta discipline en France, c'est quoi? C'est compliqué de trouver du sponsoring ou comment ça fonctionne?
Alors,
Plusieurs questions en
alors,
une question.
ouais. Alors, au niveau du sponsoring matos, donc t'as les marques qui, t'as quatre grosses marques, on va dire, au niveau des kites, à peu près pareil au niveau des foils. Donc, elles sponsorisent les garçons qui font du développement du matériel. Par exemple, en équipe de France, tu as Théo de Ramcourt qui est sponsorisé par la marque Fly Surfer et qui développe le matériel et qui teste le matériel.
OK.
Donc, ensuite, tu as Axel Mazella et Nico Parallier qui font exactement la même chose pour Ozone et du coup qui sont sponsorisés par Ozone. Tu as Benoît Gomez, aussi un Français, ouais, les Français ils sont bien positionnés les garçons, qui fait exactement la même chose aussi pour F1. Et donc lui
Ah, il faut aller, ouais.
c'est un jeune qui fait partie de la relève française et qui je pense va bien marcher dans les prochaines années. Et au niveau des filles, tu vas avoir quelques filles à l'international qui sont connues ou qui sont championnes du monde et qui du coup vont être sponsorisées au niveau du matériel. Et après, moi par exemple, je vais avoir des prix, mais à part un prix parce que j'ai un classement IKEA, sinon je vais pas avoir de sponsoring au niveau du matériel.
Ah ouais.
Ensuite, ce qu'il faut, c'est trouver d'autres sponsors à côté. Donc moi, là, je suis à la recherche de sponsors financiers que j'ai pas encore trouvé. Mais bon, voilà. Ça va venir, j'espère, avec l'appel des Jeux Olympiques. Avec l'appel des Jeux Olympiques. Et ensuite, ben, c'est trouver d'autres partenaires à côté. Moi, par exemple, ben, au niveau de ma préparation physique, j'ai Sogood. C'est un groupement de salle de sport qui me sponsorise. Donc,
Ouais.
bah, ma préparation à l'année, j'ai un préparateur physique qui est d'ailleurs une amie qui fait du kite aussi et qui est préparateur physique dans Assogood, du coup, qui suit ma préparation physique et celle de Théo de Ramcourt aussi. J'ai une marque française qui me sponsorise au niveau du néoprène, c'est Sorouz. Et
OK.
ensuite, à côté, bah, je suis à la recherche de sponsors financiers pour m'aider dans ma préparation et mon projet olympique. Là, en faisant des devis et tout, en chiffrant sur beaucoup d'entraînements, les déplacements, etc., on obtient une facture annuelle aux alentours des 60 000 euros.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Quand tu comptes le matériel qu'il te faut à l'année, enfin avec double quiver pour être sûr de ne pas avoir une galère, quiver d'entraînement, quiver de compétition, etc. Donc ouais, sur un gros budget, on est autour des 60 000 euros l'année.
Waouh. Et le poids là-dedans, un foil, ça coûte combien pour avoir une idée à peu près?
Un foil, ben là par exemple sur les derniers Levitas qu'on a achetés, enfin que la fédération du coup acheté pour les filles, on est sur 3 008 le foil.
Ah ouais, quand même.
Sans compter la planche, du coup, et là, t'as un foil.
Ouais,
T'as
et
pas
t'en
un
faut...
deuxième foil
Ouais,
au cas où il
ouais.
y a un souci.
Waouh, ouais, donc c'est un sacré budget quand même.
Ouais.
Ok, bah écoute, j'espère que le podcast, je te l'avais dit, hein, je garantis rien du tout, mais qui sait, peut-être qu'il y aura
Là, c'est déjà sympa.
un partenaire potentiel, mais ouais, ok, c'est un budget. C'est intéressant de voir que le... Enfin, intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est étonnant de voir que il y a un attrait de la part des marques complètement différent pour la discipline chez les hommes et chez les femmes.
Ben, on était sur un sport individuel au début, c'était les garçons qui faisaient les meilleurs résultats et qui allaient plus
Ouais.
vite et qui sont au développement, etc. Ensuite, Là, il y a déjà pas mal de personnes sponsorisées, donc je ne sais pas s'ils vont ouvrir encore plus leurs équipes ou pas, mais
Ouais.
je ne pense pas. Mais là, l'objectif, enfin moi personnellement, l'objectif, c'est vraiment de trouver un sponsor financier pour pouvoir acheter le matériel que je veux et celui qui me correspond le mieux, quoi.
Ouais. Ok, bah écoute, on va croiser les doigts, hein, faire en sorte que ça arrive rapidement pour que tu puisses t'éclater. Top, Alexis, on arrive quasiment déjà à la fin. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Tu vas voir, ça va encore être une bonne question. Si tu regardes ton parcours en kite depuis tes débuts, toute l'expérience que tu as acquise et ton palmarès actuel et le potentiel que tu as encore devant toi, qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi?
Je pense que c'est l'investissement que j'ai mis dès le départ.
Ouais.
Ouais.
Donc
Je
le
pense que
temps,
c'est
l'énergie.
l'investissement ouais, que j'ai mis dès le départ. Ensuite, bah, d'ailleurs, on l'a vu, dès le départ, j'ai fait des bons résultats. Ensuite, il y avait moins de filles que maintenant. Là, avec l'affluence des Jeux Olympiques, on est beaucoup plus nombreuses, ça c'est sûr. Et sur les 2 dernières années, où du coup, j'ai bossé à temps plein, donc c'était assez dur pour... Ah, donc moi, je fais des saisons. Je bosse d'avril à mi-novembre.
OK.
Et donc ces 2 dernières années où du coup j'étais à temps plein et j'ai pu passer beaucoup moins de temps sur l'eau parce que ben c'est moniteur et entraîneur de kite, c'est quand même un métier assez physique où on gère la sécurité de plusieurs personnes sur l'eau, des fois dans des conditions de vent assez fortes. C'est pas alors tous les métiers sont difficiles, mais c'est sûr que c'est un peu plus fatigant que si j'étais derrière un bureau assise
Ouais.
tranquillement. J'aurais envie d'aller à l'extérieur, mais là, m'encaisser des fois le froid, etc., selon certaines périodes, c'est assez fatigant. Donc, c'était très dur d'aller sur l'eau après pour s'entraîner. Je me sentais vraiment épuisée physiquement et mentalement. Et en fait, j'arrivais sur les compétitions avec, bah avec quasiment zéro entraînement. Et en étant fatiguée. Et donc, autant j'ai pris de l'avance au début. Autant, bah, ces 2 dernières années, y a les autres filles qui sont arrivées et qui m'ont rattrapée et sont repassées devant, et sont passées devant plutôt. Et donc, ça a été assez dur à le vivre mentalement, surtout avec mon investissement qui a diminué. Et du coup, c'est pour ça que cette année, je me suis mis à mi-temps pour pouvoir arriver un peu plus à gérer les deux. Bon, je dois t'avouer que du coup, j'arrête quand même pas, mais j'ai plus de temps pour moi. Pour l'entraînement.
Et ce sera du coup peut-être le mot de la fin, mais quel conseil tu pourrais donner par rapport à ce que tu viens de nous partager?
Ben, je pense que quand on a des objectifs, faut y aller à fond et même si c'est dur physiquement et mentalement, faut tout donner pour réussir.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexia, c'est ce qu'on retiendra.
Merci à toi.
Encore une fois, merci pour ton temps. Je mettrai tous les liens pour tes sponsors, tes différents comptes sur les réseaux pour que les gens puissent te suivre. Et écoute, bon courage pour ce week-end, pour les championnats de France qui arrivent dans 10 jours, c'est ça?
Ouais, c'est ça commence le 20, c'est les inscriptions, ça commence le 21. Donc
Ok.
à peu près par
On va
là.
croiser les doigts. Et écoute, tout le meilleur pour la suite de ta carrière. On espère que tu te trouveras les sponsors qu'il te faut, que ce soit financier ou en partenariat. Et encore une fois, bon vent pour la suite, Alexia.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappes.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!